Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Invité de l'émission jusqu'à 13h, c'est l'homme fort du président. Les regards sont tournés vers lui depuis que l'ordre républicain est mis à l'épreuve. 13 semaines maintenant que reviennent chaque samedi des scènes de violence, violence des manifestants, scènes de violence policière aussi. Et des questions qui se posent aujourd'hui sur les moyens, les méthodes légitimes pour faire régner l'ordre public dans notre démocratie. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est installé dans le studio de Questions Politiques. Vos questions, vos remarques sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, Questions Politiques, Ali Badou.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue l'équipe de Questions Politiques pour vous interroger. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut à tous.
Avant de parler de l'acte 13, comme on dit Christophe Castaner, un mot pour évoquer cette scène criminelle. La résidence du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, dans le Finistère, a été la cible d'une tentative d'incendie criminel. Est-ce que vous en savez plus sur les auteurs de cet incendie ?
Non, l'enquête a débuté hier avec attention. Il y a quelques pistes que nous devons creuser, mais à l'heure qu'il est, je n'en sais pas plus et il ne m'appartient pas d'en communiquer plus. Mais au-delà de l'enquête, ce qui compte, c'est le symbole politique. Le fait d'attaquer non seulement le domicile privé d'un homme, mais le président de l'Assemblée nationale. Et ça fait suite à près de 70 attaques contre des parlementaires, contre leur permanence ou contre leur maison, leur domicile, où vivent leurs conjoints, leurs enfants, et cela est totalement inacceptable.
Et certains... ça dit quoi du pays, pardon ?
Bah, ça montre, au fond, une forme de violence qui monte et de rejet profond animé par quelques-uns de toutes les institutions, pas seulement de la classe politique. Dans les institutions, je mets les syndicats, je mets les forces de l'ordre, je mets aussi les journalistes et on voit comment, à travers ces semaines qui s'écoulent, il y a une violence systématique, une mise en cause systématique, un remplacement.
Est-ce que vous savez de qui émane cette violence ?
Non, je pense qu'elle a des sources profondes dans la société. Je le vois, moi, comme ministre de l'Intérieur, sur la progression des violences dans notre pays qui se banalisent. Et en cela, il y a des racines profondes à ce mal-là, des racines sociales aussi. Et puis, il y a la banalisation de la mise en cause. La parole politique qui met en cause les institutions, qui met en cause le politique, contribue aussi à cela. Et puis, il y a une sorte de remplacement, je disais cela. Les réseaux sociaux donnent des vérités, qui sont bien souvent des non-vérités, qui sont plus fortes encore que votre parole institutionnelle de journaliste ou celle du maire, du député, du ministre ou du président.
Mais plus globalement, on a le sentiment, effectivement, donc on a 13 semaines de mobilisation, on a, vous le disiez, des permanences de députés qui sont touchées, on a là le domicile personnel d'un président de l'Assemblée nationale. On a le sentiment que la tension dans le pays, vous n'arrivez pas à la faire retomber. Comment vous l'expliquez ?
Christophe Castaner.
Bon, d'abord, ce que je constate, c'est que depuis le 17 novembre, les manifestations n'ont rassemblé chaque semaine que de plus en plus de moins de monde.
On aura compris.
Hier, oui.
Mais il y a quand même 60% des Français qui continuent à le soutenir, ce mouvement.
Mais qui soutiennent la revendication des Gilets jaunes. Et moi, je suis prêt à la soutenir. Il y a une double revendication. Une revendication sociale, une revendication institutionnelle, et celle-ci, je l'entends.
Et on va en
mais
parler.
Les Français ne soutiennent pas la violence, ne soutiennent pas les agressions systématiques contre nos forces de l'ordre, contre les institutions ou contre les journalistes.
On va prendre le temps, justement, de parler des violences. Christophe Castaner, au lendemain de cette 13e journée de mobilisation, il y a eu des affrontements à Toulouse, à Bordeaux, à Paris. Un manifestant a eu la main arrachée, grièvement blessé par une grenade de désencerclement lancé par les gendarmes. Est-ce que vous avez ces nouvelles d'abord ?
Non, je sais que l'opération a été longue ce matin parce que c'est un travail très méticuleux. C'était une blessure grave qu'évidemment je regrette. Je pense d'abord à lui et j'ai demandé un certain nombre d'éléments. On a déclenché immédiatement une enquête judiciaire pour comprendre ce qui s'est passé. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a eu une attaque contre le fronton de l'Assemblée nationale, des gens qui manifestement voulaient rentrer dans l'Assemblée nationale. Les gendarmes se sont déplacés d'ailleurs pour protéger les grilles et se sont retrouvés à un moment donné encerclés face à une foule très hostile et ils ont voulu se désencercler. Comme vous le dites, et un manifestant, manifestement, sur les vidéos que l'on voit sur les réseaux sociaux, a voulu prendre dans la main cette grenade et elle a explosé.
Mais vous comprenez que les moyens, les outils utilisés pour maintenir l'ordre posent problème. Les grenades de désencerclement, un grand nombre de personnes réclament leur interdiction. Ce sont des armes qui peuvent être létales et qui sont utilisées pour le maintien de l'ordre. C'est quelque chose que vous refusez d'entendre ?
D'abord, je ne refuse pas de l'entendre. Vous avez remarqué que, par exemple, sur le LBD, j'ai pris très tôt une mesure demandant qu'il y ait systématiquement un accompagnement vidéo. Moi, je suis prêt à travailler sur la refonte de notre ordre public. Mais là, nous gérons des crises extrêmement violentes, avec des attaques. Et ce qui s'est passé hier, dès les Champs-Élysées, vous avez vu cette image d'un commissaire en train de parler avec une dame tout en reculant pour laisser les manifestants avancer, qui est agressé par un manifestant qui vient et qui lui donne un violent coup de pied dans la tête. Et nous avons eu cela tout au fil de la journée. Hier, dans Paris, il y a des cocktails Molotov qui ont été jetés sur nos forces. Et donc, elles ont, contrairement aux manifestants, la possibilité d'user de la force. Parce que la force publique, elle est légitime
mais
pour
juste pour
protéger.
Comprendre, pour comprendre, Christophe Cassaner, parce que tout le monde se pose la question, la doctrine de maintien de l'ordre, il faudra sans doute la revoir, mais on est en temps de crise, et puisqu'on est en temps de crise, on utilise des moyens que demain, on interdira peut-être, à savoir les LBD, certaines grenades de désencerclement, par exemple.
Non mais d'abord, c'est un des outils d'une doctrine d'emploi national qu'il nous faut peut-être revoir et qu'il nous faut revoir d'ailleurs, et j'ai demandé qu'on y travaille sur ce sujet. Parce qu'on voit bien que depuis, non pas quelques semaines, mais depuis quelques années, l'ultra-violence rentre dans toutes les manifestations. On l'a vu dès la loi El Khomri. Vous vous souvenez de cette scène de ce CRS immolé d'essence et qu'on a voulu tuer. Et puis on l'a vu le 1er mai de l'année dernière avec 1000 Black Blocs qui ravagent une rue. Et donc cette violence-là, on l'a vu dans la ZAD, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes, cette violence-là nous amène à reconsidérer notre doctrine d'emploi. D'ailleurs, nous l'avons fait après le 1er décembre. À la préfecture de police sur Paris, on était dans une immobilisation des manifestants. C'est-à-dire qu'on les tient à distance, ils ne bougent pas. Et on les laisse détruire. On a changé la doctrine après ce qui s'est passé sur l'Arc de Triomphe, avec des interventions directes. Mais ça implique effectivement plus de contacts, plus de corps à corps, plus de brutalité et des blessés. Mais je vous le dis, qu'un blessé soit manifestant, gilet jaune ou manifestant, qu'il soit policier, qu'il soit journaliste, c'est toujours un drame.
Est-ce que plus l'État se montre dur, comme c'est le cas en ce moment, est-ce que du coup, ça renforce pas la radicalité, la dureté également des manifestants? Est-ce qu'il n'est pas temps de calmer le jeu dans les deux camps? Est-ce qu'il ne faut pas changer la stratégie maintenant?
Mais l'État ne se montre pas dur. Prenez cette image et ce blessé grave devant l'Assemblée nationale. La manifestation chemine. Il n'y a pas de policiers ni de gendarmes devant l'Assemblée nationale pour laisser passer le mouvement. Puis le mouvement s'arrête et commence à casser et à vouloir rentrer dans l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, les gendarmes qui étaient sur le côté, qui n'étaient pas à la vue, viennent pour protéger l'Assemblée nationale. Et imaginez deux secondes que les manifestants, non pas les gilets jaunes, parce que ceux qui étaient là, qui se sont arrêtés devant l'Assemblée, qui ont voulu casser, sont des ultras violents, que ces ultras violents soient rentrés dans l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Que faisait la police? Et on aurait contesté cela. Mais je vous le dis, là, très clairement, ils sont cachés sur le côté pour éviter toute image de provocation. Ils viennent et ils se retrouvent encerclés par la violence. Tout comme le commissaire qui se fait frapper. Regardez cette scène. Il se fait frapper sur les Champs-Élysées. Il tente d'attraper celui qui l'a frappé. Et là, il y a une foule qui se jette sur lui.
Mais reconnaissez qu'il y a des dérapages policiers.
Mais il y a des anomalies et des dérapages policiers, j'en ai constaté quelques-uns. Il y a systématiquement une enquête, et dès que ce sera établi à terme de l'enquête, et non pas à travers des images ou des vidéos, il y aura des sanctions.
Combien de temps une enquête?
Alors c'est un des problèmes, c'est dès lors qu'elle est judiciarisée.
Parce que depuis 13 semaines, il n'y a pas eu un seul policier suspendu dans le cadre de ces samedis de mobilisation des Gilets jaunes.
Dès lors qu'on est sur des enquêtes judiciaires, vous avez raison, elles prennent du temps. Mais ensuite, il faut faire la transparence. Il y a actuellement 133 plaintes qui ont été déposées à l'IGPN. Il y a 133 enquêtes précises qui sont placées sous l'autorité d'un magistrat qui sont conduites. Et moi, je souhaite qu'elles aillent vite, parce que ça permet aussi peut-être de montrer que les reproches que l'on peut faire sont fondés, tout comme ils sont infondés. Dans les 133 enquêtes, ça va de blessures graves. On parle d'une main arrachée, même si pour celle d'hier, il n'y a pas eu de plainte encore. Et je comprendrai qu'il y ait une plainte. Mais ça va aussi de l'insulte simple. Ce sont 133 enquêtes qui sont menées sous l'autorité judiciaire.
Nathalie Saint-Cricq.
Vous parlez d'ultra dans ces manifestations. C'est qui ces ultras? Extrême droite, extrême gauche? Au bout de plusieurs semaines, vous devriez quand même savoir de qui il s'agit. Quel est leur pédigré?
Oui. Alors, ça dépend des communes, pour tout vous dire. Ouais. Il y a des cultures différentes d'un territoire à l'autre. Et on voit bien, c'est assez simple, quand vous regardez ce qui s'est passé hier sur Paris, avec des attaques systématiquement sur des commerces, sur les banques, la quasi-totalité des distributeurs de billets du parcours de la manifestation d'hier ont été détruits, mais aussi du mobilier urbain, mais aussi des voitures. Et on cible des voitures plutôt haut de gamme, mais pas toujours. Et si vous voulez, on parlera aussi du véhicule de nos forces sentinelles qui a été incendié. Et donc ça, c'est très classique de l'ultra-gauche. Effectivement,
la Porsche incendiée dans le quartier des Champs-Élysées, c'est l'ultra-gauche.
Alors ça, je vais être presque clair sans vous donner de nom. Il se trouve qu'a priori, c'est la même personne qui a incendié le véhicule de Vigipirate. Je rappelle que ce sont quand même
devant
les militaires sentinelles qui protègent les Français contre les actes terroristes. C'est a priori le même et c'est quelqu'un qui est bien identifié, qui vient d'une mouvance anarcho-libertaire, je suis pas assez habitué, j'ai un peu de mal à le prononcer, et qui du coup a été identifié, est actuellement en garde à vue, et l'enquête se poursuit.
Et du côté de l'extrême droite? Plutôt dans d'autres territoires où vous considérez?
Alors ça dépend. Sur Paris, on a vu, y compris la une d'un grand hebdomadaire avec une personnalité très connue de l'extrême droite, je vais citer Paris Match, qui était là, qui est quelqu'un que l'on connaît, qui a fait l'objet de nombreuses condamnations pour ses propos haineux, antisémites, et qui était dans les manifestations. Ça a été variable, ça a évolué
Le fait de noyauter ce mouvement, ou c'est quelque chose de stable depuis le début?
Non, ça a évolué de semaine en semaine, et puis des fois, il y a même des bagarres entre eux. La semaine dernière, dans Paris, il y a eu des bagarres entre ultra-droite, ultra-gauche, qui était le match retour du match d'avant. C'est ça la réalité. Ce sont des gens qui viennent uniquement pour semer la violence. Ce ne sont pas les gilets jaunes.
Même s'ils portent des gilets jaunes.
Vous remarquerez tous qu'ils ne les portent même plus. Ils viennent dans la manifestation pour casser. Mais je vais vous prendre un autre exemple. On parle de Paris, parlons de la province. Hier soir à 19h, à La Roche-sur-Yon, charmante commune de Vendée, il y avait 500 manifestants qui restaient. Il y avait 100 personnes cagoulées au cœur de La Roche-sur-Yon qui venaient pour casser. Ça, ce sont ces ultras qui profitent de la manifestation pour systématiquement venir détruire, s'en prendre aux institutions, s'en prendre aux journalistes, s'en prendre aux policiers et aux gendarmes.
Françoise Fressoze.
On a affaire à un mouvement très long qui sollicite tous les samedis les forces de l'ordre. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des forces de l'ordre? Comment est-ce que vous arrivez à les mobiliser sans fatigue, sans presque, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ils sont tellement sous tension qu'il peut y avoir des gestes inconsidérés?
Christophe Castaner.
D'abord, vous dire que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la permanence. Parce qu'on peut pas imaginer de dire, on est fatigué, finalement, on va pas protéger les Français. C'est un ministère de protection et la protection, elle est permanente. Mais vous avez raison dans votre question. Ce sont aussi des femmes, des hommes qui mènent ces sécurités et qui souffrent de la violence, qui souffrent de la fatigue et qui souffrent aussi de la mise en cause un peu systématique dont ils font l'objet depuis quelques semaines, oubliant que, y compris chez les policiers, il y a des blessés.
Quand vous parlez des mises en cause, quand on dénonce les violences policières, c'est pas mettre en cause l'ensemble des forces de l'ordre.
Vous vous êtes senti visé, je parle des mises en
cause,
y compris dans les manifestations. Vous savez, même
vous parlez du moral des troupes, Christophe Castaner.
Oui, mais dans les manifestations, ils se font insulter en permanence, police, milice. Quand c'était un titre du groupe Trust, ça pouvait encore faire sourire. Là, c'est pas le cas. Quand on les compare à des nazis et qu'on voit des banderoles sur ce sujet, c'est dur. Vous savez, un homme politique, moi par exemple, on est censé être blindé. Et pourtant, quand je vois des banderoles avec marqué Castaner assassin, ça me fait mal. Donc j'imagine la violence que c'est pour ces femmes et ces hommes qui ne comptent pas leurs heures, qui n'ont pas les conditions de vie que nous avons et qui sont systématiquement insultés. Quand je vois la semaine dernière un commerçant qui ne laisse pas rentrer un policier au motif qu'il sera armé pour acheter dans sa boulangerie de quoi déjeuner, au motif qu'il est policier, je peux vous dire que ça fait mal. Mais ce que je sais, c'est que la plupart des commerçants, y compris les 1900 à Paris qui ont eu leurs vitrines vandalisées ou cassées depuis le début des manifestations, sont du côté de nos forces aussi.
Et donc c'est pour soutenir vos forces de l'ordre, c'est pour soutenir leur morale qu'il fallait cette loi anti-casseurs?
Ah non, c'est pour leur donner des outils et les donner aussi à la justice.
On les avait déjà, ces outils-là?
Ah non. On les avait pas. Le meilleur exemple, c'est les casseurs dont on parle, qui sont identifiés comme revenants toutes les semaines, mais qui n'ont pas fait l'objet de sanctions judiciaires, et dans la sanction judiciaire, qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction de venir manifester, je ne peux rien contre eux. Je peux vous dire que c'est insupportable pour un commerçant dans un centre ancien qui, chaque semaine, voit les mêmes venir mettre le feu à des poubelles et courir vite, et finalement laisser attraper les manifestants classiques qui viennent. C'est ça la réalité. Donc cette loi, vous savez, elle a fait une grosse polémique, on peut en parler si vous voulez, mais...
Ah ben on va en parler.
Elle permet quoi? Elle permet d'identifier ces gens ultra-violents et de leur dire, vous avez l'interdiction de venir la semaine prochaine. C'est tout. C'est cela l'outil majeur pour nous.
Non,
on les connaît.
Non, c'est pas tout. C'est le préfet, en l'occurrence, donc le pouvoir exécutif, qui va avoir la possibilité, effectivement, de dire individuellement si une personne peut manifester ou pas. Habituellement, dans notre arsenal juridique, notre culture des Lumières, c'était normalement le juge qui devait prendre cette décision-là. C'est une transformation importante.
Moi, je crois pas, parce que vous savez, Madame Bécard, aujourd'hui, le préfet peut interdire la manifestation. C'est-à-dire qu'il peut interdire...
Globalement.
Voilà, il peut interdire à tout le monde de venir. Et on m'explique que ce serait une anomalie démocratique que d'imaginer que le préfet qui a identifié quelqu'un qui a commis des actes graves la semaine précédente ou le mois précédent, sortons de la discussion des Gilets jaunes, il l'est identifié, il l'est connu, on lui notifie l'interdiction de venir manifester et il a 72 heures pour demander à un juge de contrôler l'acte, la décision du préfet. Donc c'est une décision d'un préfet sous le contrôle du juge qui vise un individu et qui lui dit « Voilà monsieur, vous avez commis des actes et je peux l'établir » qui font que vous présentez une dangerosité pour une manifestation. C'est ça, le texte. Et le texte, c'est une décision d'un préfet sous le contrôle d'un juge.
Françoise Fressouze.
Vous avez quand même vu le débat au sein de La République En Marche. Vous venez des rangs socialistes. Est-ce que vous n'avez pas été quand même interpellé par cette interrogation sur un gouvernement est en train de remettre en cause une partie des libertés publiques parce qu'il fallait une loi de circonstance, il fallait montrer qu'on était ferme face aux casseurs.
Christophe Castaner. D'abord, ce n'est pas une loi de circonstance parce qu'elle avait été préparée par M. Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, bien avant la manifestation des Gilets jaunes.
En octobre.
Voilà. Et donc, mais elle a été votée en octobre, mais préparée bien avant. Oui. Et elle était liée au post-manifestation El Khomri et post-1er mai violent que l'on a connu. Donc elle n'est pas de circonstance. Deuxièmement, oui, il y a eu un débat. Avec celles et ceux avec lesquels j'ai pu travailler, les commissaires de La République En Marche au sein de la commission des lois, la quasi-totalité ont voté ce texte. Avec d'autres qui n'ont pas travaillé avec nous sur ce texte, ils ont eu cette inquiétude. Moi, je l'entends parfaitement. Mais je préfère avoir des contradicteurs plutôt que des casseurs dans la rue.
Mais Édouard Philippe lui-même dit qu'il va falloir retravailler ce texte. Vous êtes prêt à faire un certain nombre de modifications sur l'article 2 en particulier ?
Non, mais d'abord, je vous rappelle que c'est une proposition de loi, c'est-à-dire qu'elle a été faite par des parlementaires, des sénateurs. Je n'ai pas écrit une ligne de ce texte quand il est venu à l'Assemblée. Je vous dis pas ça pour dire c'est pas mon texte, je l'assume parfaitement. Et j'ai assumé les discussions que nous avons eues avec les députés. Mais c'est un des éléments aussi assez nouveaux. Précédemment, un gouvernement jamais ne prend un texte de loi qui vient de l'opposition. Ben, moi, ça m'a pas gêné.
Ma question, c'est pas ça. C'est Édouard Philippe va-t-il effectivement être écouté qu'effectivement on va retravailler une partie du texte ?
Mais attendez, le texte va retourner au Sénat et on va retravailler avec les sénateurs, il devrait revenir ensuite à l'Assemblée, on va retravailler avec l'Assemblée, il faut rassurer. Vous savez, moi j'entends aussi dans les ceux qui se sont abstenus, personne n'a voté contre dans la majorité de La République En Marche, mais ceux qui se sont abstenus portent une inquiétude, moi je l'entends et je suis prêt à en discuter avec eux et à leur donner ces garanties. Mais je vous le dis, qu'on vient pas expliquer qu'une loi est liberticide quand on autorise un préfet qui a un dossier sur quelqu'un, qui a constaté avec la police des éléments, des agitations, des violences, qui dit à quelqu'un, ben non, la semaine prochaine, vous ne pourrez pas venir manifester, et qu'il fait ça sous le contrôle du juge, je crois qu'on est encore en démocratie.
Nathalie Sacré. D'un point de vue matériel comme d'un point de vue philosophique, diriez-vous qu'il y a encore un fossé entre la vision de la droite républicaine et la vôtre en matière de maintien de l'ordre, notamment dans cette crise des Gilets jaunes ? Puisque vous avez repris, on l'a dit tout à l'heure, une proposition de M. Retailleau, que finalement, les parlementaires de la République, les républicains, pardon, sont en l'air d'être sur la même ligne que vous.
Ben, il y a plein de sujets sur lesquels on peut être sur la même ligne et ça ne me pose aucun problème. Puis il y a des sujets sur lesquels on est en désaccord. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un ordre public de droite ou un ordre public de gauche. Je sais ce que c'est que l'ordre public. Le fait qu'effectivement, on puisse avoir le droit de manifester dans ce pays sans être agressé par des casseurs qui vous empêchent de manifester. Cette loi, c'est une loi de bon sens et pas une loi de circonstance. Et c'est une loi de protection des manifestants, des commerçants, des centres-villes, mais aussi de nos forces de l'ordre.
Vous êtes toujours un homme de...
Pardon, les 6 points en plus d'Emmanuel Macron auprès de
oui,
la droite...
Oui, je suis toujours un homme de gauche. Vous n'avez pas fini votre question.
Vous êtes toujours un homme de gauche, on va en parler
tout à l'heure. Quand on voit qu'Emmanuel Macron reprend quelques points dans les sondages et que c'est notamment à droite qu'il les reprend, est-ce que tout ça est lié, d'après vous, sur cette image d'ordre, d'autorité ?
Ça, vous savez, d'abord, faut les pas sondages, vivre avec les sondages, voilà.
Non, mais ils sont plutôt rassurants, ceux-là, par les temps qui courent.
Oui, mais ils étaient moins bons la semaine, le mois d'avant, et je les commentais pas le mois d'avant, donc je vais pas les commenter en disant tout va bien. Il y a aujourd'hui une rupture entre la vie politique en général et les concitoyens et les Français. C'est ça qui doit nous interpeller.
Encore deux questions sur l'ordre public avant votre portrait, Christophe Castaner. Allô, Place Beauvau, c'est pour un signalement, c'est ce fil Twitter engagé par le journaliste David Dufresne qui a recensé beaucoup, la plupart, peut-être toutes les violences policières, 417 signalements jusqu'à présent. Qu'allez-vous faire de tous ces signalements ?
Ah ben moi, je ne vais pas sur les comptes Twitter de tel ou tel. On a un truc extrêmement simple.
S'il a créé ça, c'est parce que personne ne répondait au téléphone. Non, allô, non, Place Beauvau, c'est la raison pour laquelle...
Ça c'est faux. C'est d'autant plus faux qu'il suffit d'aller sur Internet, vous allez sur le site de l'IGPN, vous déposez et c'est au vu et au su de tout le monde. Vous déposez une plainte et elle est immédiatement instruite. Et donc, je ne voudrais pas laisser penser qu'il y aurait des plaintes qui ne soient pas instruites. Et donc, moi, ce que je compte, ce sont les plaintes. Je pense que si des gens sont vraiment blessés, ils ne vont pas se manifester sur un compte Twitter, ils vont se manifester sur le site de l'IGPN.
Même si ce travail est utile.
Ah, mais j'ai pas à le juger parce que c'est un travail de journaliste et donc il m'appartient pas de le juger. Ensuite, je n'ai pas non plus à le suivre et à considérer que tout ce qu'il dit est forcément exact. Mais à l'inverse, je ne crois pas non plus que tout ce qu'un policier me dit au moment d'une action est forcément exact. Je veux qu'il y ait des enquêtes et qu'on les contrôle.
Est-ce qu'on a des nouvelles de Louis Boyard, ce jeune homme, ce jeune lycéen de l'UNL, qui a manifestement avait eu le pied cassé, même si c'était un peu arraché. Plus compliqué.
Écoutez, oui, pied arraché. Enfin, manifestement, il va bien, vu qu'il court de plateau en plateau.
Vous le dites de manière ironique, c'est que c'est pas si oui. grave ou que vous n'avez pas de cœur.
Non. Bon, d'abord, je pense avoir un cœur parce que je suis à peu près comme vous, un homme, un père de famille et que je suis intéressé par le mouvement des lycéens.
Non, mais parce que vous souriez alors qu'il est blessé.
Oui, je souris parce que d'abord on a vu quelques vidéos où on a vu que ce jeune homme tombe tout seul en descendant de la statue Place de la République. Et là, il fait immédiatement un tweet en disant « J'ai le pied broyé par un tir de LBD, il n'y a pas eu de tir de LBD. Les pompiers l'auscultent et jugent inutile de l'amener à l'hôpital. Il se rend à l'hôpital. À l'hôpital, on considère que c'est pas une urgence, donc il reste un peu dans la salle d'urgence et on lui donne une crème anti-inflammatoire. Et depuis, on continue à raconter qu'il a été victime d'un tir de LBD ou d'une grenade d'action. Et il court de plateau en plateau pour redire cela. Il n'a toujours pas porté plainte sur ce sujet. Et donc, a priori, il n'a pas le pied cassé, contrairement à ce qu'il a dit. Il a eu un hématome et les médecins de l'hôpital des urgences, aux urgences à Saint-Antoine, lui ont donné une crème. Voilà. Donc ensuite, effectivement, je pense que de temps en temps, il faut ramener les choses à la réalité et qu'on ne court pas de plateau en plateau pour dire des choses qui sont infondées.
Puisqu'on se tourne vers vous, que vous êtes considéré comme responsable de ce que font les forces de l'ordre, est-ce que vous dites aux policiers, par exemple, pas de tir tendu avec les LBD, ne visez pas les visages ?
Ah ben, bien sûr que je leur dis, mais vous savez, dès le mois de décembre, j'ai fait une vidéo après le 1er et le 7 décembre, qui ont été extrêmement violents. D'ailleurs, c'est là où l'essentiel des affaires qui font l'objet de plaintes ont eu lieu. Depuis toutes les semaines, il y a 2 ou 3 signalements sur des anomalies. Seulement 2 ou 3, mais c'est 2 ou 3 de trop. Mais la plupart du nombre de manifestes de plaintes à l'IGPN ont lieu sur ces week-ends-là. J'ai fait une vidéo que j'ai envoyée à toutes les forces. Je me suis rendu au centre de Bièvre, qui est un centre de formation, et je leur ai rappelé justement la doctrine d'emploi. Et si vous écoutez tous mes discours, y compris aux vœux, aux syndicats, aux policiers, aux gendarmes, et aux vœux des syndicats de police, où il n'est pas facile forcément de dire ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, j'ai systématiquement rappelé le devoir d'exemplarité dans l'usage de la force, quelle qu'elle soit. Et je vous rappelle qu'elle est évidemment celle de la dissuasion et quelquefois celle de l'action. Nos policiers sont armés et c'est nécessaire dans de nombreux cas, mais évidemment pas en gestion de l'ordre public.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est l'invité de Questions Politiques.
France Inter, Ali Badou, Questions Politiques.
Votre portrait, Christophe Castaner, signé Karine Bécard.
Christophe Castaner, c'est quand même fascinant de voir la manière dont votre carrière s'est accélérée. Vous étiez un simple député, assez effacé sous le quinquennat précédent, et puis tout à coup, vous êtes devenu l'homme que le nouveau président voulait mettre partout. Un couteau suisse, en quelque sorte, capable d'être en 20 mois seulement, à la fois porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, délégué général de la République En Marche, c'est-à-dire le patron du parti du patron, et puis aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Intérieur, et ce n'est peut-être pas fini. En fait, vous, Christophe Castaner, l'ancien député socialiste qui rêvait déjà sous François Hollande de devenir ministre, vous avez très tôt, dès 2013, rencontré Emmanuel Macron. Vous avez été tout de suite impressionné et très vite, vous n'avez plus jamais cessé de le suivre et de l'observer, bluffé entre autres par son côté disruptif. Du coup, vous aussi, vous avez tenté d'être un peu plus inventif, comme cette marche de 15 jours que vous vous êtes imposé dans votre circonscription 9 mois avant les dernières élections.
Je pense que ces 2 semaines, en fait, vont me permettre d'échanger aussi avec les gens, voir ce qu'ils attendent et peut-être voir si je suis en mesure, capable d'être à nouveau candidat. Nous verrons.
Si vous êtes en mesure d'être à nouveau candidat, le 28 août 2016, Christophe Castaner, c'était tout vu, non ? Parce que vous vous êtes beaucoup battu. Pendant 20 ans, vous avez tout fait méthodiquement pour parvenir à vous installer politiquement. D'abord, grand classique pour un apparatchik, les cabinets ministériels. Jeune rocardien, vous avez été entre autres chef de cabinet chez Michel Sapin. Ensuite, il vous fallait un fief, ce sera Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Élu à 35 ans, vous êtes resté maire pendant près de 16 ans. En revanche, député, ça a été plus compliqué. Vous le devenez la première fois en 2012, à 46 ans, alors que dès 2005, la question vous est posée. Alors, vous y pensiez déjà à ce moment-là, à ce mandat ?
De temps en temps, le week-end, je ne me rase pas, donc au moins j'ai les week-ends tranquilles. La question du mandat n'est que le service du territoire. Et donc c'est ça qui compte et qui est majeur pour moi.
Alors c'est un bon condensé de langue de bois, mais à y regarder de plus près, le futur porte-parole d'Emmanuel Macron a là déjà incontestablement ce ton séducteur qui fait sourire et qui sait même attendrir. Sauf qu'aujourd'hui, Christophe Castaner, à 53 ans, vous êtes ministre de l'Intérieur. Certes, celui qui a claqué la porte de ses parents à seulement 17 ans peut s'enorgueillir d'un parcours aussi méritant, mais à vouloir sans cesse exister, avancer, accélérer, l'homme de gauche que vous avez été n'a pas eu peur de se dénaturer.
Réaction Christophe Castaner.
D'abord, juste, votre vision du parcours de l'engagement politique est un peu injuste. Moi, j'ai été maire de Fort-Calquier parce que j'aime passionnément cette ville. J'aurais même pu être élu à Paris dans un arrondissement parisien. Et je suis retourné en province, chez moi, travailler avec les gens que j'aime. Et donc, il ne faut pas penser que l'engagement politique, il est forcément celui d'une carrière. Ensuite, je fais une carrière politique, j'ai une culture...
Mais vous l'avez souhaité ?
Oui, oui. Et puis, je reconnais la remarque sur apparatchik parce que j'ai fait du cabinet ministériel, etc. Voilà. Mais sauf que ce que je vois aussi dans La République En Marche, c'est qu'on a fait monter en responsabilité des femmes, des hommes qui n'avaient pas du tout ces parcours-là. Mmh. Puis ensuite, l'accélération, elle est liée au fait qu'Emmanuel Macron, je crois, a voulu accompagner l'action gouvernementale par des femmes et des hommes avec des profils différents. Certains avec une expérience politique modeste. Même Édouard Philippe, d'ailleurs, n'était pas un homme politique de premier plan. Il en a fait un premier ministre, venant d'un camp différent. Il n'avait pas fait la campagne avec lui. C'est le dépassement politique qu'il voulait incarner. Et puis, des gens qui avaient fait la campagne très tôt avec lui, comme moi, ou Richard Ferrand, par exemple.
Mais le côté couteau suisse, c'est le manque de ressources humaines dans le macronisme, non ?
C'est pas très sympa pour moi. Je pensais que c'était un peu lié au fait que j'étais pas totalement inapte à certaines fonctions.
Françoise Fressoz.
Alors, on vit quand même un moment politique absolument inédit où des manifestations continuent et parallèlement, il y a un grand débat national qui est censé durer jusqu'au 15 mars. Et tout le monde se dit, comment va-t-on sortir aujourd'hui de ce grand débat national ? On a évoqué l'hypothèse du référendum très fortement la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un référendum pour sortir de la crise ? Est-ce que vous pensez que ce référendum peut avoir lieu le même jour que les élections européennes ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Christophe Castaner.
D'abord, je crois que c'est important de se projeter dans l'après-Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont porté des revendications, mais surtout un message politique fort, un message social, un message institutionnel auquel le président, le gouvernement a répondu.
Mais d'abord, c'est important aussi de répondre à Françoise Fressoz.
Oui, mais je crois que ce qui compte, c'est pas forcément ma réponse, c'est la situation et l'action politique. Et donc, mais je vais y répondre, promis. Et donc, ce que l'on constate, c'est quoi ? C'est qu'on a fait des réponses d'abord sociales. Depuis quelques jours, les 100 euros au-dessus du SMIC, les gens les ont reçus. Et c'est non négligeable, c'est 3,5 millions de personnes qui ont bénéficié de ces mesures-là. Et d'autres mesures que vous connaissez, mais sinon je vais faire crier par Ali Badou, je ne vais pas toutes les évoquer.
Vous avez parfaitement compris mon rôle. Le gardien de l'ordre de questions politiques.
Ensuite, il y a le grand débat national, qui est un moment assez inédit, assez unique. J'étais à Dreux il y a deux jours, et je vous assure que c'est passionnant aussi de participer à ces moments-là, et ça n'a rien à voir avec la violence des manifestations du samedi. Et ensuite, il faut en sortir. Alors, vous me posez la question du référendum. Je vous dirais presque que moi, je m'en fiche. Référendum, décret, loi, ce ne sont que des outils. Ce qui compte, c'est le contenu.
Vous en fichez.
Ah ben l'outil, oui. L'outil compte pas. Ce qui compte, c'est la politique que vous menez.
Le retour aux urnes, le moment démocratique que réclament beaucoup, vous en fichez.
Vous avez bien compris ma remarque. Ma remarque, c'est de dire que l'outil ne compte pas. Ce qui compte, c'est le contenu. Et donc, un référendum, par exemple, ce qui compte, c'est la question que vous allez, ou les questions que vous allez porter en son sein. Et donc, je pense que c'est bien l'usage du référendum, parce que ça permet, sur des sujets qui doivent être des sujets de société, pas des micro-sujets, ça permet de redonner la parole au peuple de façon régulière. Alors, donc, pourquoi pas ensuite, parce que sinon, là encore, je vais me faire crier par Ali Badou. La question du moment, ce que je sais, c'est que le président de la République n'a pris aucune décision à l'heure qu'il est. Et donc, ça peut être le jour des élections européennes, ça peut être plus tard.
C'est toujours pas tranché, ça. Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant non, ça va complètement polluer la campagne des européennes.
Ça fait partie du débat. D'abord, il y a des voix politiques, la mienne, celle d'autres, elles comptent. Vous, mais vous aussi le grand débat national.
À titre personnel. Coïncidence entre le jour des européennes. Julien de Normandie, qui était là à votre place il y a une semaine, Jean-Yves Le Drian, Nathalie Dizot, disent très clairement, bah, c'est pas bien pour l'Europe de faire ça le même jour.
Vous savez, moi, j'ai un peu de mémoire et je me souviens que peut-être la première étape de la rupture entre les Français et le pouvoir, c'est le référendum de 2005. C'était un référendum sur l'Europe, et on n'a pas écouté les Français. Et je crois que les Français, depuis, nous en veulent. Donc on voit bien que tout est imbriqué. Et donc selon les questions qui seraient posées, qu'elles aient lieu le même jour qu'un débat européen, ne me pose pas de problème. Et à l'inverse, si ce ne sont que des questions nationales, je pense que ça n'a pas sa place ce jour-là.
Mais qu'est-ce que vous conseillez au président de la République ?
Moi, sur ce sujet, je lui conseille de continuer à écouter, à prendre la température des Français, à participer aux grands débats, à lire tout ce qui remonte et voir si l'outil du référendum est un bon outil et sur les sujets, voir les attentes et ce qui peut permettre surtout, non pas de faire de l'angélisme, mais ce qui peut permettre de refaire du commun, de rassembler les Français. On a quelques sujets sur lesquels on peut peut-être, effectivement, par un référendum, donner un souffle de rassemblement.
Est-ce qu'il faut avoir sociétal, j'arrête après avec Julien Normandie qui était là la semaine dernière.
J'aime beaucoup, par ailleurs.
Régulièrement Julien Normandie. Lui, il considère qu'on ne peut pas s'en sortir avec des questions institutionnelles ou sociétales, c'est-à-dire la proportionnelle, je ne sais pas quoi, qui d'ailleurs pourrait très bien passer sans référendum. Il considère qu'il faut des mesures sur la fiscalité, le pouvoir d'achat et que tout le volet économique est essentiel. Je ne vous demande pas si vous partagez l'avis de Julien Normandie.
Je le partage.
Voilà. Vous ne pouvez pas faire que de la.
Ah, mais je pense que.
Que de la 5e République bis,
non,
ou je sais
pas quoi.
Ce que
je veux dire, je redis. Le référendum est qu'un des outils. Mais la réponse que nous devons porter après le grand débat ne doit pas être qu'institutionnelle. Elle doit être aussi sociale, économique. Elle doit traiter de la question de la dépense publique et de la fiscalité.
Comment ça peut se faire? Ça peut être perçu, ressenti par les gens si on dit tout le temps on ne change pas de cap.
Mais le président de la République n'a pas dit tout le temps on ne change pas de cap. Il a pris plein de sujets sur lesquels il a dit oui, on peut évoluer. Et donc il le dit sans cesse toutes les semaines. Et donc je le dis aussi.
C'est vraiment ce que vous entendez, vous, quand vous écoutez les grands débats où participe le président de la République?
Ah ben, je sais pas,
qu'il est prêt à évoluer? Non, il dit qu'il a une ligne et qu'il va la tenir.
La ligne, c'est la ligne sur laquelle il a été élu. Et donc, on ne change pas toutes les deux semaines de ligne. Je pense que ce n'est pas bien.
Non,
et
mais
surtout,
tous les deux ans.
On pourrait se faire enguirlander quand on vient sur vos plateaux. Mais par contre, je ne sais pas, j'ai entendu cette semaine s'exprimer sur les emplois aidés, par exemple. Et j'ai lu le lendemain dans la presse que vous disiez, tiens, il y a peut-être un changement de cap. Donc, vous voyez, il y a des sujets sur lesquels la discussion doit s'ouvrir. Les emplois aidés, j'ai toujours dit, il le dit aussi, que c'était une mauvaise réponse, mais que ça avait une vraie utilité humaine et sociale là où ça servait. Mais c'était une mauvaise réponse quand on sait que 75% des emplois n'étaient pas pérennisés après, que la durée moyenne des emplois, c'était 5,2 mois, et qu'en moyenne, on gagnait 50 euros au-dessus du RSA. C'était une mauvaise réponse. On l'a dit, peut-être avec trop de brutalité, et on a eu un retour de bâton sur ce sujet par la perte de service et pour certaines personnes, par une perte d'espérance à travers ces emplois. Eh bien oui, le président a dit, on peut rouvrir cette discussion.
Françoise.
Vous dites, il faut des réponses économiques, sociales, mais très fondamentalement, comment analysez-vous cette crise et quelle inflexion dans le discours ou dans la direction il faut apporter après ce mouvement qui n'est pas terminé ?
Je vais vous faire une réponse qui va vous paraître bizarre, c'est que moi je souhaite qu'après le grand débat, on soit encore en débat. Que la première réponse, et j'ai pas la solution technique, ce soit celle qui permette justement d'être dans une discussion permanente. Aujourd'hui, on a une rupture entre les élus, dans leur responsabilité, mais même maire, j'ai été maire d'une petite commune et je l'ai vécu aussi, et les concitoyens. Parce que on a un mandat qui serait une sorte de mandat donné pour 5 ans, pour 6 ans, selon le mandat, et on l'appliquerait sans dialogue. Et très vite, on se retrouve isolé. Donc moi, la première chose que j'attends du grand débat, c'est qu'il se poursuive. Il a un cadre, ce grand débat national. Mais qu'ensuite, on puisse réinventer notre rapport aux gens. Tout à l'heure, vous évoquiez la marche que j'ai faite dans mon département à pied. Mais y compris pour assumer la part de fatigue d'arriver dans les villages. Et j'avais dit aux gens, vous voulez parler? Vous venez avec moi, vous m'accompagnez en marchant, vous m'invitez à déjeuner, à dîner ou à dormir. J'ai vu des gens qui ne seraient jamais venus dans ma permanence de député. Parce que je sentais cette rupture-là. Et j'ai eu envie, pendant 15 jours, de faire 310 kilomètres à pied, de finir à la frontière italienne et d'aller écouter les gens. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça comme un mode de démocratie qui va s'appliquer à tous, mais ça montre bien que dans ce moment-là, j'ai touché des gens que je n'aurais jamais touché autrement et qui ont changé de regard avec moi. Ils m'ont peut-être plus détesté, peut-être plus aimé. Mais c'est essentiel que le grand débat se poursuive par une réinvention de notre rapport à l'action.
Qu'il se poursuive sans fin, ça ressemble à un cause toujours.
Non, ça c'est votre...
Bien sûr que si.
Mais non, mais pas du tout.
S'il n'y a pas de changement de cap et si on invite les Français à parler régulièrement...
Mais parler pour décider.
Jusqu'au bout du mandat.
Non mais attendez, on peut parler pour décider. Sinon, là, on parle depuis tout à l'heure.
C'est par exemple le référendum d'initiative citoyenne.
Non mais vous pensez, là, ça fait 37 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que vous pensez qu'on ne s'est strictement rien dit?
Ce n'est pas un grand débat.
L'intérêt de la discussion, c'est aussi d'apprendre, d'expertiser, d'échanger et de comprendre.
Mais quelle inflexion? Pour quelle inflexion de la politique et de l'orientation d'Emmanuel Macron?
Par exemple, on a vu qu'il y avait... Mais vous savez, on l'a pas deviné à ce moment-là. Dans ma marche, je voudrais revenir là-dessus. Le lendemain, quand je suis arrivé à la frontière italienne, nord de Massico, le lendemain, je voyais Emmanuel Macron. Et je lui ai fait ce témoignage, parce qu'il me demandait de raconter cette expérience. Je lui ai dit, tu sais, chez moi, le vote Front National, en région PACA, il est fort, il n'est pas lié à l'immigration, il n'est pas lié à l'insécurité, il est lié à la question du pouvoir d'achat. Eh ben, je peux vous dire que dans cette marche, j'ai ressenti cela, en particulier le jour où j'ai discuté avec une dame aide-soignante qui m'accueillait pour dîner et dormir, et qui m'a raconté qu'à la rentrée de septembre, elle avait sa fille, elle était mère isolée, qui voulait des Stan Smith. Et elle ne pouvait pas lui acheter les Stan Smith. Elle bossait, elle était fonctionnaire dans un hôpital public, elle n'y arrivait pas. Et on a pris des mesures sur le pouvoir d'achat. Ça n'a pas été assez vite, pas assez loin. On a accéléré. On a fortement accéléré. Et les 100 euros d'augmentation au niveau du SMIC, c'était dans le quinquennat, ben c'est maintenant opérationnel depuis le 1er février. C'est ça aussi l'intérêt de la discussion.
Karine, puis Nathalie Saint-Cricq.
Alors, ce grand débat, on a l'impression que c'est aussi le grand débat au sein de la majorité en ce moment. On a parlé tout à l'heure de la loi anti-casseurs. Il y a 50 députés qui n'ont pas souhaité la voter. On a des députés qui font de nouvelles propositions pour remettre l'ISF à leur manière. Il y en a quelques-uns qui proposent aussi de revenir sur le cumul des mandats, avoir le droit de cumuler. Comment, 18 mois après leur élection, vous percevez aujourd'hui cette majorité? Comment est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle est en train de s'affranchir d'une autorité?
Elle mûrit, elle se donne plus de liberté. Il y a 6 mois, vous m'auriez reproché que ce soit godillot. Oui, mais il y a 6 mois, vous m'auriez dit, j'étais le patron de La République En Marche. Oui, ce sont des godillots, ils marchent avec le doigt.
Mais justement, vous n'êtes plus patron et maintenant il y a des frondeurs. Alors, est-ce que l'actuel patron ne tient plus le groupe?
Je ne suis pas sûr que ce soit lié et ce ne sont pas des frondeurs. Moi, j'ai connu les frondeurs.
Vous appelez ça comment?
Non, il y a une vraie différence. Les frondeurs, c'est ce qu'on les a connu de 2012 à 2017, je les côtoyais bien. Oui. J'avais même Pascal Cherki assis à côté de moi dans l'hémicycle, et donc c'est une bonne référence de frondeur. C'était une posture politique. Avant même le texte de loi, avant même l'examen, on savait qu'ils allaient voter contre parce qu'on réglait les comptes du Bureau national du Parti socialiste. Là, ce sont des gens qui ne sont pas dans une écurie, mais qui, sur tel sujet, ça a pu être sur les vaccins, par exemple, ont voté contre certains amendements.
Sur l'immigration, sur la sécurité, voilà. C'est-à-dire sur des questions de principe, de conviction profonde.
Régalienne. Parce que vous n'avez regardé que cela, mais ça arrivait plein de fois que sur des articles de loi...
Oui, mais parce que ce qui est intéressant, c'est de voir des gens qui, en conscience... au nom de grands principes humains, républicains, décident de ne pas voter des lois. C'est autre chose qu'un choix politique ou technique.
Alors juste entre nous, le « en conscience » et les grands principes, il ne faut jamais se jeter à la figure parce qu'on peut toujours s'opposer des grands principes comme ça. Ensuite, il y a des réalités concrètes, c'est ce dont on parlait sur la loi anti-casseurs. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé ma conscience en portant ce texte-là. Et personne d'ailleurs dans la majorité n'a eu ce sentiment-là, personne ne l'a dit non plus.
Oui, on a le sentiment quand même dans cette majorité que...
Karine puis Nathalie Saint-Cricq.
Vous avez eu du mal à les écouter quand ils ont commencé à vous parler des difficultés sur la CSG, sur les 80 km/h. Ils avaient perçu des choses que vous n'avez pas écoutées. Du coup, est-ce que cela, désormais, ils vont être de plus en plus difficiles à gérer?
Mais vous êtes dur avec moi dans le portrait tout à l'heure et finalement, vous ne m'avez pas assez lu ou pas assez écouté. Je vous invite à relire une interview que j'ai faite dans l'Opinion en décembre 2017. Donc, en décembre 2017, j'écris noir sur blanc, nous avons été trop arrogants. Je le dis, y compris dans notre incapacité à écouter. Alors, je parlais pas qu'au sein du groupe, je parlais aussi des députés du MoDem et des députés qui n'étaient pas si loin de nous au départ, Agir, et du Parti Socialiste,
et du président
des Sociaux-Démocrates. Et donc, j'ai posé ce constat-là. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'emballement, mais y compris chez les députés eux-mêmes. Le terme « nouveau monde, ancien monde », qui est une expression que je déteste, il est né après l'élection législative. Il est né avec des députés qui ont dit « Non, non, mais nous, on a le savoir et surtout, on a légitimé l'élection. » Et on a fait de vraies maladresses.
Mais ma question, c'est est-ce qu'on va pouvoir les gérer, ces députés-là, maintenant?
Non, mais d'abord, il y a eu 50 abstentions, aucun vote contre et 250 qui ont voté pour. Juste une proportion, 250 qui étaient là. Et je peux vous dire, dans la commission des lois qui a travaillé activement sur ce texte, en lien avec la rapporteure et la présidente de la commission, les discussions se sont très bien passées.
250, ça fait pas une majorité absolue.
On va rester là.
Juste dernière question. On a entendu parler du pouvoir d'achat, on a entendu parler de la taxe carbone, après il y a eu le RIC, après maintenant il y a les éoliennes. Est-ce que vous considérez pas que derrière finalement toutes ces questions ou ces revendications, il y a quelque chose qui est une forme de haine ou de vis-à-vis d'Emmanuel Macron, quelque chose qui serait peut-être irrationnel et qui serait inquiétant justement pour vous dans la clôture de ce débat? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous échappe et qui est, quand on a vu un certain nombre d'images, qui est quelque chose qui est peut-être qui ressort de l'arrogance ou alors de quelque chose qui est irrationnel?
Bien sûr qu'il y a de l'irrationnel. Il y a manifestement de l'irrationnel parce que, et c'est toute la difficulté pour discuter, c'est qu'aujourd'hui, nos interlocuteurs n'existent pas et ne sont pas sur un corpus de revendications. C'est très varié. En gros, la seule revendication qui sont dans les manifestations, c'est celle des ultras qui n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour vouloir tout casser. Et puis, sont ceux qui revendiquent à la fois le départ d'Emmanuel Macron et un peu le mien. Quelquefois, c'est même inversé.
Mais ce qui réunit tout le monde, c'est Macron démission.
Qui réunit 50 000 personnes qui ont manifesté hier. Sur 66 millions de Français. C'est important quand même qu'on se redise ça. Il y avait plus de monde hier soir au Stade de France pour le trophée Andros que de gens dans la rue en France hier.
Alors pourquoi ça fait autant de bruit? Pourquoi ça mobilise tout le monde?
Parce que je pense que ça a soulevé un questionnement social, un rapport aux institutions beaucoup plus profond. Et je ne veux pas réduire le mouvement dit des gilets jaunes aux seuls excès que l'on connaît. Ça n'est pas le cas. Il y a une vraie interrogation sur notre façon d'être, notre rapport au pouvoir. Et là, le nous étant les Français.
D'accord, est-ce qu'il y a un rapport avec Emmanuel Macron? Puisque
non,
c'est
je pense que
il a soulevé un enthousiasme et il soulève maintenant une espèce de mouvement de rejet profond.
D'impopularité, du rejet, parfois de la haine.
Oui,
ça, c'est réel.
Et en même temps, si on regarde les sondages, mais je dis qu'on parlait pas, on voit que s'il y avait un premier tour d'élection présidentielle, il fait 5 ou 6 points de plus que ce qu'il avait fait. Non, face à tous les autres candidats au premier tour de la présidentielle, il est 5 ou 6 points
au-dessus. C'est le sondage IFOP pour Marianne cette semaine.
Voilà. Mais objectivement, il ne veut rien dire et n'enlève rien à la tension, voire la détestation qui existe. D'abord, il y a une parole qui s'est libérée. C'est-à-dire, cette parole qui était réduite aux réseaux sociaux, qui était une parole de haine, elle s'est totalement libérée. Mais certains, y compris dans la classe politique, l'ont libérée aussi. Certaines violences symboliques, la violence symbolique du président, ou je sais pas quel est son titre, du groupe de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, au moment des perquisitions face à des policiers, face à un procureur, elle banalise ces violences-là.
C'est surtout lui que vous attaquez ou il y en a d'autres aussi avec?
Non, mais j'ai pas une attention particulière pour lui.
Mais Marine Le Pen
tout à l'heure,
on parlait de
Monsieur Boyard, immédiatement après son tweet, la quasi-totalité des députés de la France Insoumise, sans aucune vérification, ont demandé ma démission immédiate. Je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement prendre le temps du recul avant de demander des choses qui sont extrêmes. Je ne parle pas de la démission du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est un rituel et c'est une chose commune. Vous parliez de Madame Le Pen et de Monsieur Mélenchon. Ils se partagent bien cette revendication-là.
Vous
ne
faites pas de différence entre les deux dans l'attitude
pendant
les gilets jaunes, vous les mettez sur la même...
Non, y en a un qui a tenté de récupérer et qui n'a pas réussi. Il y en a une qui n'a pas tenté de récupérer et qui a plutôt récupéré.
Bon. C'est clair. Il y a aussi dans l'actualité l'affaire Benalla et des nouvelles révélations portées à la fois par le magazine en ligne Mediapart et par Libération cette semaine. Est-ce que maintenant on peut dire très simplement que c'est une affaire d'État? Non plus une affaire d'été, mais une affaire d'État, Christophe Castaner.
Non, c'est pas une affaire d'État, c'est une affaire d'un bonhomme qui manifestement a fait n'importe quoi et continue à faire n'importe quoi.
Une certaine impunité quand même.
Si les faits qui sont rapportés, d'abord la plupart des faits dont on parle sont des faits qui sont postérieurs au fait qu'il était licencié de l'Élysée. Mais si les faits évoqués avaient été connus, les sanctions auraient été les mêmes plus tôt.
Est-ce que vous avez des informations sur un élément important de cette affaire et de son rebondissement, à savoir que c'est bien chez celle qui dirigeait le groupement de sécurité du Premier ministre, Marie-Élodie Poitou, donc une policière de haut rang, que Alexandre Benalla a rencontré quelqu'un qu'il ne devait pas rencontrer, Vincent Crase, pour parler d'un contrat avec un oligarque russe qui est lié à la mafia?
Un, je n'ai pas d'infos, et deux, elle l'a contesté.
Vous n'avez pas d'infos?
Non, parce qu'on est dans une enquête judiciaire, et je vous rappelle que c'est la police qui fait le volet judiciaire d'une enquête, mais dans ce cas-là, elle est placée sous l'autorité du procureur et pas du ministre de l'Intérieur.
Cette discussion
et ils sont
à trois...
très attentifs à ne pas mélanger les genres.
Cette discussion à trois ou peut-être à quatre, qui les a enregistrés?
Je ne sais pas.
La police?
Non, non. Alors ça, je peux vous le dire très clairement parce que je l'ai fait vérifier. Il n'y avait pas d'enquête administrative, c'est de renseignements administratifs sur Monsieur Benalla.
Ah bah alors dites-nous qui n'a pas fait ses écoutes.
Ah mais je ne sais pas qui l'a fait.
Donc ce n'est pas la police.
Non, mais je peux vous dire.
Est-ce que ce sont les renseignements militaires?
Je ne sais pas. C'est pas mon ministère. Par contre, j'ai posé la question à mon ministère. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'écoutes possibles. Il y a celles qui sont judiciaires, il y a celles qu'on appelle du renseignement administratif, qui est très contrôlé. Hein. C'est indépendant du ministre. Le ministre peut faire une demande, et j'ai fait vérifier. Ça n'est pas le cas.
Ça peut être un service étranger?
Ça peut. Moi, j'y crois pas, mais
pourquoi
ça peut.
Vous ne croyez pas aux Russes qui, par exemple, puisqu'il s'agit d'un certain nombre de contrats, pourraient essayer de déstabiliser la France en profitant d'ailleurs de gens qui...
Vous savez, je pense qu'on est plus dans une affaire de cornucule que dans une affaire de James Bond.
Ah oui, bon, vraiment.
Enfin, ça touche quand même l'Élysée Matignon, votre histoire de cornucule, comme vous dites. C'est un peu...
Sauf que je viens de vous dire que la dame en question, la responsable, a dit que ça n'était pas chez elle, à sa connaissance.
Nathalie Saint-Cricq, Question qu'on va poser, donc qu'on saura un jour de toute façon la vérité sur cette affaire à l'issue de l'enquête. Il y a aussi la question, là pour le coup, qui vous concerne, même si ce sont des tensions diplomatiques, cette nouvelle escalade entre la France et l'Italie. Vendredi, avant-hier, vous avez répondu extrêmement sèchement au ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, qui vous invitait ou vous convoquait à Rome pour parler de sécurité, de terrorisme, d'immigration. Qui est responsable de ces tensions, Christophe Castaner? Est-ce que c'est le gouvernement italien, le gouvernement de la Ligue et du mouvement 5 étoiles, ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui, au mois de juin dernier, parlait de lèpre qui monte en Europe et qui, du coup, aujourd'hui, recevrait une sorte d'effet boomerang de ces critiques du gouvernement Salvini-Di Maio?
Il y a deux choses. Il y a le débat politique. Emmanuel Macron est aussi un homme politique, je suis un homme politique, et je peux effectivement m'inquiéter de la montée des populismes, et pas qu'en Europe. Et je pense qu'il nous faut le combattre. Et je considère effectivement que M. Salvini est un adversaire politique. Par contre, je le vois dans ma fonction comme ministre de l'Intérieur, la veille de cette expression-là. J'étais avec le secrétaire d'État de M. Salvini dans une négociation sur des sujets de trafic internationaux, notamment à Bucarest. Et donc, nous pouvons travailler parfaitement ensemble.
Ah, vous pouvez travailler.
Attendez. Ah, mais là... sur les sujets qui relèvent de la sécurité des Français et des Italiens, je peux vous dire, il faudrait que l'un et l'autre en soient idiots pour penser que sur un désaccord politique,
c'est du cinéma,
de philosophie...
C'est du cinéma, ça veut dire on rappelle l'ambassadeur français à Rome,
Je vous ai
et on continue de se parler.
Non, mais tout en même temps.
Ça s'appelle une tension diplomatique. Effectivement, il y a un moment donné dans la diplomatie, besoin de siffler la fin de la cour de récréation. Quand vous avez un vice-premier ministre qui vient en France rencontrer les Gilets jaunes et qui a des déclarations hostiles sans prévenir personne, bah du coup, vous avez des processus diplomatiques. Il ne m'appartient pas de me prononcer, ils sont ainsi faits. Mais je vais vous dire, ce qui compte sur la sécurité, et c'est ce sur quoi vous avez répondu, des Français et des Italiens, il n'est pas question, et je vous le dis avec une vraie fermeté, que des désaccords politiques sur des philosophies politiques fassent courir le moindre risque aux Français.
Ça veut dire
et donc
que vous
nous continuons,
ben,
par exemple, en matière de renseignement, nous continuons. Je me suis rendu à Londres il y a 10 jours pour préparer le Brexit. Parce qu'évidemment, quand les Anglais ne seront plus dans l'Europe, il n'est pas question que nous arrêtions de travailler sur le renseignement terroriste avec les Anglais.
Donc vous êtes d'accord avec la question de Françoise Fressoz, la précédente, c'est du cinéma tout ça?
Non, c'est pas du cinéma, ce sont des tensions diplomatiques. Pour que chacun...
Non, mais pour
que
chacun... Dans le langage courant.
Les Français, on a l'impression de vivre un truc complètement dramatique.
Je ne suis pas sûr que les Français soient totalement effrayés par les tweets de Monsieur Salvini ou les réactions de Christophe Castaner. Je pense qu'objectivement, ils ont passé un meilleur week-end et que ce n'est pas directement lié. Mais moi, j'ai répondu mais très tôt à M. Salvini, parce que très régulièrement, on a des échanges. Donc là, j'étais un peu ferme en disant « ne me convoque pas » parce que je pense que ça n'est pas bien. Il a fait un tweet pour dire « pas du tout, je me suis fait mal comprendre, c'est plutôt une invitation ». Dès que les discussions diplomatiques entre les chefs d'État auront lieu, je reprendrai langue avec M. Salvini pour que nous puissions travailler
au-delà
ensemble.
Au-delà du cinéma, ce qui est intéressant, c'est que ce sont malgré tout les relations entre deux pays membres et fondateurs de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une campagne européenne qui n'a pas encore vraiment démarré, mais qui va bientôt commencer, puisqu'il y a des élections le 26 mai prochain. Ça donne une petite indication quand même du climat dans lequel va se passer cette campagne. Qui sera la tête de liste pour La République En Marche aux élections européennes?
Je crois que le délégué général de La République En Marche a dit qu'elle serait connue fin février.
Oui, mais il y a quand même un profil. On dit que c'est quelqu'un qui doit être expérimenté, donc pas un jeune à la façon Manon Aubry Jordan Bardella.
Non, mais d'abord, l'âge n'est pas un sujet. Vous avez cité deux candidats, ils sont parfaitement respectables.
Non, mais on nous dit qu'il faut quelqu'un de capé.
Et que leur âge, voilà. Mais je veux dire quelque chose de simple. J'ai été délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini en est le responsable. Je veille à lui laisser tout le champ. C'est jamais sain d'avoir l'ancien...
Attendez, personne ne peut imaginer que ce n'est pas Emmanuel Macron qui choisit le tête de liste, là.
Non, mais
là,
vous me posez la question à moi, et donc j'ai laissé Stan... en responsabilité. Stanislas Guérini, en responsabilité.
Ça s'appelle refiler une patate chaude.
Est-ce qu'en gros, ça doit être quelqu'un de connu? Est-ce que ça doit être quelqu'un de connu et d'entraînant, ou est-ce qu'on peut prendre quelqu'un peut-être même de la société civile qui n'est pas forcément, qui n'a pas une forte notoriété et qui pourrait incarner l'idéal européen d'Emmanuel Macron?
Mais pourquoi pas si c'est une personne qui porte cet idéal européen avec efficacité?
Moi, j'obtiendrai rien comme réponse.
Mais non, mais
la langue de bois.
Non, mais je suis pas langue de bois. Je ne sais pas. Non, mais attendez.
C'est pas grave. Vous avez le droit.
Mais je vous le dis, je ne sais pas.
Mais vous êtes langue de bois.
Mais c'est pas être langue de bois que dire je ne sais pas. Donc, si je vous réponds je ne sais pas, vous allez rebondir trois fois. Donc,
voilà le profil.
Par contre,
voilà
je vais rebondir
ce que
à mon
propos,
Ali Badou. J'ai pas filé la patate chaude parce que, comme délégué général, ce que j'avais préparé pour le mouvement, c'est un élargissement politique pour cette élection européenne, pour qu'on ait effectivement dans le débat politique une liste pro-européenne qui porte une ambition européenne et qui aime l'Europe. Et parce qu'on l'aime, on veut la changer. Et donc, c'est un élargissement politique. Et Stanislas Guérini le pilote. Il le pilote très bien.
C'est une patate chaude parce que les parlementaires européens, La République En Marche, ils siégeront dans quel groupe? Parce qu'au Parlement européen, c'est assez simple. Ils vont siéger avec les membres du Parti Socialiste Européen ou avec le Parti Populaire Européen de la droite?
Et si on inventait un nouveau groupe?
Si on faisait sauter
le PPE? Vous allez inventer un nouveau groupe
l'idée,
au Parlement européen?
L'idée, c'est effectivement pas de rentrer dans tel ou tel groupe. Quand j'étais délégué général de La République En Marche, j'ai fait une tournée en Europe, j'ai été voir des partenaires possibles en Espagne, en Italie, vu qu'on parle de l'Italie, et ça n'est pas ni la Ligue ni le Mouvement 5 étoiles, et nous avons constitué un pôle pour arriver à faire un nouveau groupe qui va dépasser les clivages politiques du Parlement européen.
Il y a déjà un pôle de libéraux au Parlement européen.
C'est ALDE, et je dis qu'ALDE avait toute sa place dans ces échanges. J'ai rencontré le président d'ALDE à l'époque.
Vous avez passé un accord déjà avec
eux, d'ailleurs. Oui, pour travailler, mais on a, il est clair qu'il ne s'agit pas d'aller à ALDE.
Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que vous allez, oui, avec les libéraux.
Mais avec des sociaux-démocrates, j'espère même aussi avec des Verts et pourquoi pas des Grünen, comme ça vous voyez un pays. Je pense qu'on a des forces avec lesquelles on peut changer la façon de faire. L'Europe, le Parlement européen, c'est très codifié. Il y a des partages de postes, on change en cours d'année, etc. Je pense qu'on peut tenter de dépasser ces mauvaises habitudes. Je prends un seul exemple, le Spitzenkandidat. C'est la façon dont on choisit actuellement, on a même déjà choisi, celui qui, après les élections européennes, sera le patron de la Commission européenne. C'est ceux qui vont ne plus être là dans quelques semaines, qui choisissent celui qui sera en responsabilité. J'ai dit, c'est une anomalie. Je me suis fait enguirlander par certains, mais je pense que c'est une anomalie et je préfère effectivement que ce soit les parlementaires en place après l'élection, quel que soit le rapport de force, qui portent une candidature plutôt que les anciens.
Et le soutien d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin, c'est bien parti pour votre candidature, enfin pas la vôtre, la candidature En Marche aux européennes.
J'ai l'impression.
La recomposition va aller à son terme, là.
J'ai l'impression, je la souhaite.
Oui. Vous avez des assurances, parce que vous pouvez la souhaiter. C'est bien parti, en clair.
C'est bien barré, comme vous dites. souhaitons que ce soit barré jusqu'au bout, correctement.
Françoise Fressoz.
Pour tout faire sauter au Parlement européen, y compris le PPE, il faut quand même gagner. Et comment est-ce que vous pensez gagner une élection, alors qu'au fond, le discours de la Sorbonne donne pas beaucoup de résultats
du président de la République ne donne pas beaucoup de résultats aujourd'hui,
notamment parce que l'accord franco-allemand... marche pas très bien.
Ouais, en fait, d'abord, vous avez remarqué que la chancelière Merkel est venue sur beaucoup de sujets du discours de la Sorbonne, dont on pensait pas qu'elle viendrait dessus. Et donc, c'est plutôt positif. Ensuite, il faut du temps. Mais par exemple, les universités européennes, je vais prendre un sujet qui peut ne pas parler à tout le monde, sont des sujets sur lesquels on a avancé. Les premières universités européennes sont en train d'être constituées. On a aussi, sur l'Europe de la défense, de vraies avancées. Il y a des sujets. Mais une chose est sûre, c'est qu'on voit bien que on peut sortir des clivages politiques traditionnels en Europe parce qu'il y a d'un côté les populistes et de l'autre des progressistes. Quand vous allez aux Pays-Bas, vous avez des gens qui sont des progressistes revendiqués. Mark Rutte, le Premier ministre, par exemple, je l'ai rencontré quand je me suis rendu aux Pays-Bas. Il est dans un groupe politique qui n'est pas avec nous et il souhaitait le dépassement politique. Et je pense qu'on peut rassembler des femmes, des hommes.
Donc on continue ce clivage-là nationaliste, progressiste.
Moi, je pense que le clivage gauche-droite, il est derrière nous et qu'il est dépassé.
Parce
que
vous êtes de droite.
En particulier à l'Europe.
Je le dis vraiment avec beaucoup d'ironie.
Ah oui, j'espère bien, parce que tout à l'heure, avant la question, j'ai réaffirmé ce que je pense.
Mais vous applaudissez quand Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, qui sont, je crois, deux anciens premiers ministres de droite, rejoignent La République En Marche.
Mais d'abord, il y a quelques années qu'ils étaient, et qu'on ne rentre pas dans une case une fois dans sa vie et qu'on n'en sort pas.
Vous dites de gauche.
C'est l'ancien monde.
Non, mais vous savez le débat. Non, mais j'ai été au Parti Socialiste et j'ai aimé ce que j'y ai fait. Mais je sais aussi combien j'ai été prisonnier du Parti Socialiste sur plein de sujets. Parce qu'on avait des oppositions totalement stériles sur l'apprentissage. Vous étiez de gauche parce que vous étiez pour l'apprentissage à 16 ans et de droite parce que vous étiez pour l'apprentissage à 14 ans.
Les leçons de François Hollande, vous en pensez quoi?
De François Hollande.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'il en donne pas mal.
Oui.
Oui, quoi?
Il en donne pas mal. Moi, je pense qu'il ne doit pas oublier qu'il a été dans l'incapacité de se représenter, l'incapacité politique, et au sens même du terme juridique de l'incapacité. Et donc, ça implique d'être un peu moins sévère, caustique sur son successeur.
Cette incapacité, elle a un corollaire aujourd'hui dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Certains disent le président empêché, impuissant aujourd'hui d'aller au bout des réformes qu'il avait annoncées ou promises quand il était candidat. À quelles conditions pourra-t-il encore mener des réformes, le président de la République et sa majorité ? Est-ce que vous pensez, par exemple, que la réforme des retraites pourrait avoir le jour?
Oui, oui. Et puis vous avez pu noter qu'il y a des sujets qu'on a reportés parce qu'ils sont dans le cœur de la discussion du grand débat national, des sujets sur lesquels on avance. La loi Pacte en matière économique, vous aviez Monsieur Le Maire comme invité la semaine dernière qui a pu vous en parler. La loi Justice portée par Nicole Belloubet ou de la gestion de l'ordre public, ce sont des textes sur lesquels on avance, le Parlement travaille.
Merci Christophe Castaner d'avoir été l'invité de Questions Politiques. Bon dimanche, merci à toutes les trois. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Pol. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.